France Inter, la séquence du médiateur, Bruno Denas.
Bon, en tout cas, c'était très gentil, Sonia. Merci beaucoup. Et en tout cas, aussi, les auditeurs continuent d'être évidemment réactifs, curieux, parfois virulents, souvent pertinents. Nous en parlons d'ailleurs avec Laurence Bloch, la directrice de France Inter. Mais tout de suite, un rendez-vous qui suscite quotidiennement des réactions d'auditeurs, l'édito politique de Thomas Legrand, le matin à 7h45. Thomas Legrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par une question directe. Êtes-vous pro ou anti-Macron? Parce que pour Jack, tous les matins, en bon gauchiste, Thomas Legrand nous inflige son édito anti-Macron. Mais pour Philippe, arrêtez de vous en prendre aux manifestants qui luttent contre la politique libérale de Macron. Deux avis totalement opposés. C'est plutôt rassurant.
Bah oui, puisque vous me posez la question comme ça, la réponse est dedans. Mais je ne prends pas à la légère. C'est vrai que quand on ressent, si des auditeurs ressentent que je penche trop d'un côté ou de l'autre, c'est un ressenti qu'il faut respecter. Moi, vous savez, quand j'écris ma chronique, mon édito, mon stylo pèse très lourd parce que je sais qu'il y a à ce moment-là, je crois à peu près 2 millions de personnes qui écoutent, ouais. Et je ne peux pas les heurter dans leurs convictions. J'ai envie de leur faire partager ma réflexion, d'essayer de donner des clés pour mieux comprendre, mieux décrypter. J'aime pas tellement ce mot un peu galvaudé, mais mieux comprendre et mieux participer à la vie politique du pays. Ce matin, par exemple, je prenais le mot assumer. J'avais remarqué que tous les hommes politiques en ce moment disaient j'assume, et quand ils le disaient, finalement, ça ne correspondait plus à la définition du mot j'assume. Donc j'essaye de donner des clés, et quand on donne des clés, quand on essaye d'enlever le papier peint de la communication, on gratte un petit peu les hommes politiques, quelquefois le gouvernement, d'ailleurs souvent le gouvernement, parce que c'est celui qui agit, c'est celui, quand on compare mon boulot,
c'est pas forcément Macron, mon boulot
c'est quand même de comparer ce qui est dit et ce qui est fait, c'est assez basique. Donc comme l'exécutif fait, évidemment il est plus sujet à la critique, si je heurte, c'est un échec à chaque fois. Je pense que c'est un échec, mais c'est difficile de ne pas de ne pas faire un édito sans heurter les plus militants, en tout cas.
Alors, en effet, vous êtes accusé de parti pris par les uns ou par les autres, mais c'est quoi le rôle exact d'un éditorialiste? Parce que vous avez le droit d'émettre un avis, contrairement, j'allais dire, à un journaliste. Alors, qui présente,
oui,
un journal.
J'ai longtemps été reporter politique ou au service étranger dans d'autres radios, d'autres médias. Et un éditorialiste, c'est quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui est un peu plus vieux, et qui a un peu d'expérience, et à qui on demande un point de vue. Alors, dans certains journaux, dans certains médias qui sont des médias d'opinion, on leur demande leur opinion. Moi, on peut pas me demander mon opinion, parce que c'est le service public. Je veux pas, donc j'ai pas une opinion à émettre. Nos auditeurs sont de droite, de gauche, de partout, par définition. Donc c'est plutôt un point de vue, et c'est une différence, un point de vue et une opinion. C'est pas, je joue pas sur les mots là. Un point de vue, c'est finalement essayer de regarder un événement qui est traité quotidiennement sur nos antennes, dans nos journaux, avec un petit décalage, avec un autre point de vue au sens littéral du terme, un endroit d'où je regarde. Évidemment, ça vient de moi, c'est personnel. On demande mon avis personnel, mon point de vue, un point de vue personnel.
De spécialiste,
donc,
en quelque sorte.
Spécialiste, mais c'est aussi personnel. C'est les yeux de Thomas Legrand. On me demande ça. C'est une énorme responsabilité. C'est valorisant, mais c'est une énorme responsabilité. Et je ne me cache pas. J'ai des opinions sur les choses, mais je ne donne pas des opinions. J'essaye de, encore une fois, regarder ce qui est dit et ce qui est fait, et simplement faire ça quotidiennement, comparer ce qui est dit et ce qui est fait, vous savez, je pourrais faire 3 éditos par jour.
Alors, un de vos sujets m'a valu beaucoup de réactions, c'est celui consacré à l'étudiante voilée choisie par le syndicat UNEF pour le représenter. Pour Sonia, par exemple, en tant qu'enseignante, merci Thomas Legrand d'avoir exprimé en termes toujours aussi concis et vigoureux mon sentiment et le choc face à cette décision. Mais pour Fatia, votre chronique m'a heurté. J'ai donc appris que moi aussi, portant le voile, j'étais radicalisé et non libre. Vous assumez toutes ces polémiques ?
Oui, dès qu'on touche à ce sujet, il y a certains sujets, celui de la laïcité est très sensible. Dès qu'on touche à ce sujet, de toute façon, on se fait insulter. Donc, faut pas avoir peur de se faire insulter ou critiquer. Là, c'est pas insulter d'ailleurs, c'est critiquer. J'assume. En fait, je vais pas refaire l'édito.
Non.
Mais là, il s'agissait d'une représentante d'un mouvement étudiant de l'UNEF et qui était voilée, mais pas simplement voilée. Elle était recouverte. Enfin, je veux dire, le cou était recouvert, tous ses cheveux étaient recouverts. C'était ce voile-là. Moi, je sais que ce voile-là est une manifestation politique, est une expression politique, une expression de l'islam rigoureux. Je ne vais pas dire radicalisé, d'ailleurs je ne l'ai pas dit. Et simplement, j'explique ça et montrer, simplement souligner qu'une organisation étudiante de gauche qui s'est toujours battue pour le féminisme accepte d'avoir cette personne comme représentante, c'est un signe politique, c'est quelque chose que j'ai simplement décrit et qui peut heurter certains. Mais là, je ne peux pas le faire de façon neutre. Je ne revendique pas de neutralité ni d'objectivité d'ailleurs. L'objectivité est un leurre en journalisme. L'honnêteté tout au moins.
Exactement. Et puis aussi, j'allais dire, un peu de tolérance à accepter des opinions qui ne sont pas forcément les siennes.
Bien sûr.
Merci Thomas Legrand pour toutes ces précisions. On vous retrouve donc lundi matin dès 7h45 pour votre édito politique. Et puis moi, j'attends toujours les réactions. Bonjour Laurence Bloch.
Bonjour Bruno.
Alors vous êtes la directrice de France Inter. Tout de suite, parlons de cette soirée ratée hier. Je sais que ça vous attriste beaucoup. Pas de fête de la musique sur France Inter. Hier soir, Pascal, comme d'autres auditeurs nous ont écrit d'ailleurs tout de suite, j'en ai supporté des grèves sur France Inter, mais ce soir c'est le pompon, fête de la musique annulée et on attend toujours de connaître les vraies raisons. Il serait temps de changer les modes de revendication et de ne pas les faire supporter par les auditeurs. Alors pourquoi cette annulation, Laurence ?
Alors d'abord je voudrais dire aux auditeurs combien on est tous désolés de ce qui s'est passé hier soir, parce qu'on leur doit une antenne, parce qu'on avait préparé, en particulier Jocelyn Perrotin, le directeur de la musique, depuis 6 mois travaillait sur l'affiche de ce concert qui était une affiche exceptionnelle, vraiment, oui, avec des artistes de toutes les générations. Donc on doit à nos auditeurs des excuses. On leur doit aussi des explications. Ce pays, d'ailleurs vous en parliez avec Thomas, ce pays a du mal à se parler. Ce pays a du mal à dialoguer. Ce pays a du mal à converser. Ce pays a du mal à se dire que oui, on peut ne pas être d'accord et en même temps il faut avancer. Il y a un conflit social au sein de Radio France. Les négociations n'ont pas abouti. Le préavis de grève n'a pas été levé et par conséquent, il n'y a pas eu d'antenne. Ça concerne des techniciens de reportage dont cette maison a grand besoin. Et en même temps, il y a un contexte aussi qui est très compliqué pour le service public. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte extrêmement contraint budgétairement. Le pays lui-même l'est. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui est extraordinairement compliqué, qui est à la fois qu'il faut donner de la reconnaissance aux gens qui travaillent et qu'en même temps, eh bien, cette maison, comme toutes les autres maisons, doit se transformer, se moderniser, contenir ses budgets et qu'il y a là une tension qui est une tension qu'on entend dans toute la société française et qui est incarnée aussi dans cette maison. J'espère que la raison va l'emporter. Je sais que l'amour du métier va l'emporter. Je sais que l'amour des auditeurs, enfin ce qu'on leur doit, va l'emporter. Et plus vite ce sera fait, et mieux on se portera tous.
Alors une question qui est revenue assez souvent, est-ce qu'on entendra finalement ce concert de l'Olympia ?
Je crains que non. Mais on va recomposer quelque chose qui sera aussi puissant que celui-là. De toute façon, je voudrais dire que la politique de France Inter à l'égard de la musique, elle va rester. Qu'on n'a jamais capté autant de concerts, qu'on n'a jamais autant coproduit de concerts et d'artistes internationaux. Là, je parle de Jack White. Je veux dire, ça a été un concert qui a été fait dans cette maison et nulle part ailleurs. Et que ça, je veux dire, nous sommes tous déterminés, producteurs, techniciens, chargés de réalisation, à faire que cette politique-là se poursuive. Et j'espère, pendant les festivals.
On vous le souhaite. En tout cas, on sent votre émotion et votre tristesse pour hier soir. Mais on va revenir à la politique avec cette tendance chez de nombreux auditeurs qui m'écrivent. Ils disent, comme Julie, ne plus supporter, donc c'est un autre sujet, l'agressivité permanente contre les invités. Ou comme Alain, ne plus supporter le fait qu'ils soient coupés systématiquement sans les laisser répondre. Ou comme Tania, vous cherchez à obtenir la petite phrase polémique plutôt que l'information concrète qui nous intéresse. Imagine-t-on des interviews plus sereines et plus constructives comme le souhaite Germain ?
Alors,
ça revient très souvent.
Oui, mais nous, on a d'autres sons de cloche, si je puis dire, qui sont, mais les politiques, on n'en peut plus parce qu'ils ont une langue de bois, ouais, parce qu'ils ont des éléments de langage, parce qu'ils sont à la communication, pas dans la vérité des choses. C'est insupportable. Donc, là aussi, c'est très compliqué pour nous parce que les politiques nous représentent. Donc, je veux dire, ils ont une responsabilité, ils sont comptables de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pour la vie de la cité. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de novlangue, de langage de communication, de déploiement des ministres, qui est très compliqué à déverrouiller, à décapsuler, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est vrai que ces questions qui sont, on coupe parce que on sait que c'est de la langue de bois et qu'on n'arrivera à rien et qu'on va gagner du temps et que malgré tout, l'interview, elle doit durer 7 minutes et pas 30 minutes. Donc, j'entends l'énervement des auditeurs et en même temps, il faut qu'on arrive à avoir un langage, j'allais dire, de vérité.
Et des vraies réponses. Alors, il faut noter qu'une interview et une invitée ont été particulièrement saluées mardi matin, donc cette semaine, par beaucoup d'auditeurs. C'est Rada Hatem, la gynécologue invitée de Léa Salamé, à une place souvent d'ailleurs occupée par un invité politique. Le thème était l'addiction de plus en plus forte des jeunes au porno. J'ai écouté avec mon fils de 12 ans, juste avant de l'emmener au collège, nous écrit Hélène. Votre interview nous a permis d'avoir une discussion libre, la première, tous les deux sur ce thème. Merci Léa Salamé. C'est en effet souvent plus concret et plus utile que les énièmes bisbilles politiques.
Oui, alors je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait là aussi un équilibre. Je pense peut-être, mais parce que c'est aussi, là Thomas le dirait beaucoup mieux que moi, mais je veux dire que c'est un nouveau régime, c'est la première année de gouvernance, il y a des réformes puissantes qui sont mises en place et donc il faut interroger. Donc je pense qu'on s'est peut-être laissé emporter aussi par cette première année si inattendue d'un pouvoir pris à la hussarde, comme dit si justement le podcast de Thomas que je conseille à tous les auditeurs, et que nous, gens de médias, on a eu envie de comprendre. Je pense, les auditeurs ont raison, je pense qu'il faut en particulier dans le 7-9 rééquilibrer, avoir la parole du politique, c'est très important, mais en même temps se dire que la politique, la vie de la cité, elle est aussi portée par la société civile et qu'il faut qu'on puisse l'entendre dans cette tranche.
Alors, on va terminer rapidement sur...
Et qu'il y aura plus de femmes. Je me bats, chers auditeurs, chères auditrices, pour que les invités du 7-9 soient plus féminins. C'est une bataille constante, n'est-ce pas Thomas ?
Bien sûr. Voilà. Le 8h sera féminin déjà.
Le 8h sera féminin, et ça c'est une chance formidable. Voilà, c'est effectivement Florence Paracuellos qui portera le 8h de France Inter, et j'en suis très heureuse et très fière.
D'ailleurs, là, il faut le dire, on a même des auditeurs qui s'amusent à comptabiliser le nombre d'invités ou de participants masculins ou féminins. Donc vous, d'ailleurs, pour terminer, vous pensez qu'en effet, les auditeurs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'antenne ?
Mais les auditeurs sont, ils sont cruciaux, c'est nos partenaires, évidemment. Mais on les écoute, on essaie de dialoguer avec eux le plus possible.
On fait un point justement hebdomadaire tous les deux.
Oui, absolument.
Sur tout ce que écrit.
Et je souhaite vraiment qu'à la rentrée, il y ait plus d'interactivité, en particulier sur le territoire digital, parce que je pense que cette chaîne qui s'appelle France Inter et qui revendique l'interactivité doit effectivement établir un dialogue avec la société civile, que c'est absolument majeur et que l'interactivité, c'est plus seulement le téléphone aujourd'hui, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, exactement, notamment pour poser des questions, pour
intervenir.
Absolument. Merci Laurence Bloch, directrice de France Inter, pour ces précisions. Merci aussi pour l'écoute que vous avez en effet pour les auditeurs et pour le médiateur. Je tiens aussi à remercier les journalistes, les producteurs qui ont accepté de venir tout au long de ces 3 ans vous répondre, à vous auditeurs de France Inter, que je salue une dernière fois chaleureusement. Merci Sonia De Villers de m'avoir accueilli tous les mois dans votre émission. Puis merci aussi à votre équipe avec qui il était vraiment très agréable de travailler, notamment vos réalisatrices, Violaine Ballet aujourd'hui, Anne-Cécile Perrin. Et puis, je voudrais dire aussi un très grand merci à l'efficacité et au professionnalisme de ma petite équipe, Catherine Cadic et Juliette Fayolet. Vous allez pouvoir évidemment continuer de réagir sur notre site, mediateur.radiofrance.fr, ainsi que sur Facebook et Twitter. Tout de suite, après le journal Ali Rebéi et Grand Bien vous fasse, je pense qu'on va parler mariage.